sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Mon nom est Marc Rochette et j'ai le plaisir d'être votre animateur chaque lundi midi. Et je ne suis pas seul en studio, ayant le privilège d'être accompagné par nul autre que le président-directeur général de la Société du Parc, Donald Olivier, que je salue immédiatement. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, j'avais un beau week-end. T'as eu un beau week-end, Donald?
Bon, oui, écoute, très beau week-end. La température a aidé, puis des activités extérieures.
Amateur de vélo, je crois.
Oui, j'ai vélo de montagne, vélo de route. On a fait les deux en fin de semaine.
Et on a failli emmener un gâteau d'anniversaire. Je pense que c'était ta fête hier, mais peut-être la prochaine fois. Mais bon anniversaire.
Merci d'avoir passé sous silence.
Là, tu allais avoir beaucoup de cadeaux. Alors, en deuxième partie d'émission, d'ailleurs, Donald, tu vas te rendre encore disponible, pour répondre aux questions du public, parce qu'on invite les gens à nous écrire. Si vous avez des questions sur le parc industriel, profitez-en. On a Donald avec nous chaque lundi midi. Et la façon de faire, pas très compliquée, pour ne pas dire pas compliquée du tout, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions ». Ou sinon, on peut le faire par texto au 819-519-9050, 819-519-9050. Donc, profitez de l'occasion pour poser vos questions. Maintenant, avant d'y aller avec le sujet du jour, Donald, on aime bien commencer l'émission avec un retour sur l'actualité. Puis, j'écoutais la semaine passée le premier ministre François Legault qui faisait un point de presse, qui a parlé de risques calculés par rapport à la filière batterie. Et je le cite, il a dit « Il n'y a rien de sûr, ni avec Northvolt, ni avec Ford, ni avec GM ». Bon, hier soir, tout le monde en parle, la ministre Fréchette s'est fait rassurante par rapport à Northvolt. Mais pour ce qui est de GM et Ford, bon, ça se passe dans notre cours, ça se passe au parc industriel de Bécancour. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus dans le sens, présentement, comment ça va par rapport à ces deux projets-là? Puis, en passant, pour votre intérêt aux gens de la maison, on va revenir spécifiquement sur tout ce qui se passe en filière batterie la semaine prochaine, une émission vraiment spéciale sur les 5 projets majeurs. Mais peut-être pour ces deux projets-là qui ont été évoqués par le premier ministre Legault, bon, pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler dans l'évolution du projet?
Les projets vont de l'avant, et puis c'est sûr que quand il amène qu'il y a toujours des risques, on peut pas contredire, mais quand même, les projets avancent bien, puis ces gens-là, les grandes multinationales, je dis souvent que leur gestion de risque, c'est pratiquement on ne prend pas de risque. Donc, ils arrivent ici, puis on fait leur devoir, mais c'est sûr que tout peut arriver, puis tu sais, la transition énergétique, on ne sait pas trop sur quelle durée elle va s'échelonner. T'sais, donc, je fais l'exemple, si quelqu'un s'entraîne pour un ultra-marathon, mais en cours de route, il ne sait plus si c'est 60 km, 100 km ou 200 km, bon, OK, la transition énergétique, combien de temps elle va prendre, on ne sait pas trop, mais assurément, ceux qui sont partis les premiers ont plus de chances de gagner l'ultra-marathon. Mm-hmm. Donc, assurément, les joueurs, puis évidemment, on m'en venait ici, je passe à travers le parc, les grues s'activent et tout ça fonctionne. Fait que donc, il y a EcoPro là, qui est associé avec Ford qui aurait démarré, puis tout ça va bon train.
Donc, des bonnes nouvelles. Puis d'ailleurs, même dans les médias, entre autres dans Le Devoir, il y avait un article qui faisait le point en fin de semaine sur la situation, puis ça, c'était positif. En tout cas,
Oui, bien, je pense que pour saisir ce qui se passe à Bécancour, il n'y a rien comme devenir à Bécancour pour saisir la mesure. Donc, ce journaliste-là a pris la peine de devenir. Ça m'a fait le plaisir de l'accueillir. J'ai passé 2 heures avec lui, 1 heure dans le bureau, 1 heure sur le terrain. Donc, quand les gens viennent... Souvent, la réaction, c'est « je pensais pas que ». Mm-hmm, je pensais pas que c'était si gros, je pensais pas que c'était si avancé, peu importe. Là. Mais donc, quand les gens viennent, ça change leur perspective.
Autre sujet d'actualité, la semaine dernière, dans les médias, on apprenait que la future école de batterie prévue à Bécancour connaissait du retard, mais je me posais la question, est-ce que la Société du Parc serait heureuse d'accueillir cette école-là et quels en seraient les avantages pour les entreprises, si c'était le cas?
Peut-être pour revenir sur la notion de retard, je voudrais juste préciser, puis je vais répondre à la question, Marc, là, mais le consortium Formation Énergie a été formé au printemps 2023. Fait que donc ça, c'est un désir intense, tous les centres de services scolaires, les cégeps de la région puis l'université, de dire on collabore, on ne se compétitionnera pas sur des programmes. Donc mm-hmm. On voit la filière batterie, on sait qu'il y a un besoin, on va tous s'aider à développer des programmes. Tout ça existe toujours. Et puis, c'est sûr que l'école de la batterie, c'est comme, oui, de former des gens, c'est sûr que ce serait positif. Et puis moi, ce que je voulais aussi préciser, c'est que, école ou pas, il y a des usines qui se construisent, il y a des mises en service qui commencent dès 2025. Donc, les entreprises, quand ils ont pris leur décision d'investir puis de commencer à construire en Bécancour, c'était pas dans leur carton sur la possibilité d'une école. Fait que donc, je veux juste que les gens comprennent que, école ou pas, les usines avancent puis ils vont se débrouiller à former leurs gens puis à trouver la main-d'œuvre. À savoir, est-ce que ça l'aide, assurément, d'avoir une école dans la région plus dédiée? C'est sûr que ça l'aide, mais il y a comme un contexte budgétaire aussi de ce temps-ci qui fait que faut quand même réfléchir à ça comme il faut. Mais assurément, d'avoir cette possibilité-là, c'est un plus. Et puis, tu sais, pour le retard, ben, je vous dirais ce qui devait être fait. Pierre Leblanc du Cégep de Drummond, ce qu'il devait faire, c'était monter un dossier. Son dossier, il l'a monté et puis on est en attente de positionnement. Mais donc, retard, il y a des retards, mais il n'y a pas de retard. Tu sais, dans le sens que lui devait déposer un dossier ministère de l'Éducation, ministère de l'Enseignement supérieur, ça a été fait. Oui, possiblement qu'il aurait aimé, qu'on aimerait avoir des nouvelles plus rapidement, mais il n'y avait pas de commitment de démarrer un projet et tout ça. Donc, c'est plus que des idées flottent encore.
Est-ce qu'une école de batterie serait obligatoirement sur le site du parc industriel ou pas nécessairement?
Pas nécessairement, mais ce qui risque d'arriver, c'est que le privé serait prêt à investir dans des initiatives, mais assurément, les initiatives qui allument plus le privé, c'est beaucoup plus relié à une possibilité d'un centre d'innovation. Donc, un centre d'innovation, où est-ce qu'il pourrait faire monter des laboratoires, mais pas des laboratoires à échelle réduite, à quand même échelle... quand même industriel. Donc, c'est sûr que le privé, je pense qu'il serait prêt à mettre de l'argent là-dedans. Et puis, on peut-tu joindre les deux ou pas? C'est ce qu'il y aura comme discussion dans les prochaines semaines, prochains mois.
Un autre beau dossier à suivre dans les prochains mois, ensemble. Donald.
Effectivement.
Et donc, on en arrive avec notre thème, notre sujet d'aujourd'hui. On voulait vraiment prendre une émission pour se poser la question, pourquoi Bécancour? Pourquoi, justement, les entreprises, les multinationales, de partout dans le monde, ont tout à coup, ben, sans dire tout à coup, mais beaucoup dans les dernières années, ont cet intérêt à venir s'installer à Bécancour? Bon, on a fait l'histoire du parc la semaine dernière. Bon, il y en a eu depuis 50 ans, des entreprises qui choisissent Bécancour, mais avec cette effervescence-là qu'on voit, peut-être on voulait prendre ce temps aujourd'hui pour voir avec toi, là, qu'est-ce qui fait que les gens viennent à Bécancour? C'est quoi les atouts du parc qui sont si séduisants, si attractifs?
Bien, c'est sûr que les investisseurs, quand ils nous voient, comment ils nous perçoivent? Là, donc, quand ils viennent à Bécancour, qu'est-ce qu'ils perçoivent de Bécancour? Bien, c'est quand même intéressant d'en parler parce que nous, on le perçoit d'une certaine façon. T'sais, quand moi, avant que je sois en fonction là-bas, bien, je suis un résident, je suis un citoyen comme tout le monde, puis on peut le percevoir d'un certain angle. Mais les investisseurs voient vraiment beaucoup d'avantages. C'est sûr que avec la pandémie, les entreprises ont réalisé qu'ils souhaitaient raccourcir leur chaîne d'approvisionnement. Donc là, c'est un terme qu'on peut se poser ce que ça veut dire, mais clairement, ils veulent avoir des fournisseurs plus près d'eux et puis dépendre moins des transports. Donc, si on peut l'avoir sur le même continent, on aime mieux l'avoir sur le même continent, nos minéraux critiques ou le service sur le même continent versus que de l'avoir peu importe où en Asie ou en Europe ou en Amérique du Sud. Donc, ils ont vraiment un désir vraiment fort de raccourcir la chaîne d'approvisionnement parce que ça a eu quand même des conséquences importantes, la pandémie, puis ça a vraiment remué, ça a changé leur façon de penser. Alors qu'avant, OK, on peut s'approvisionner un peu partout dans le monde, économie mondiale et tout ça. Fait que c'est sûr que la situation géographique de Bécancour, centre du Québec, donc porte d'entrée quand même importante via les océans avec le port qu'on a en eau profonde. Donc, il y a comme deux éléments qui sont un peu reliés. Le fait qu'on a le port, mais aussi la localisation, être capable de dire, OK, si je vais à Bécancour, ben dans ma chaîne d'approvisionnement, dans ma logistique, j'ai quand même un accès vraiment par bateau. Donc, pour eux autres, ils voient ça comme une porte d'entrée en Amérique du Nord, là. Pas nécessairement au Québec ni au Canada, mais c'est plus large que ça, de venir à Bécancour, c'est comme une porte d'entrée en Amérique du Nord.
Donc, la situation géographique qui est stratégique, la capacité intermodale aussi, port en eau profonde, la vallée de la transition énergétique, bon, qui a été créée depuis un an ou deux, là, bon, Ça, est-ce que ça ajoute aussi comme atout pour attirer les entreprises?
Oui, ça n'a pas été, ça a pas été le facteur décisionnel des premiers, parce qu'ils ont pris la décision de venir ici avant. Mais assurément, les joueurs, les investisseurs qui viennent à Bécancour, avec qui on discute, c'est sûr que ça, moi je dirais, ça amène de la crédibilité et de la profondeur. Donc, c'est sûr que c'est pas des services, c'est pas comme de l'énergie ou du gaz, de l'électricité que tu as besoin, mais assurément, quand ils voient la...
Une sorte de marque de commerce.
Oui, mais carrément une volonté du gouvernement en créant ça, mais une volonté du milieu, parce que la vallée dirigée par Alain Lemieux, la vallée de la transition énergétique, mobilise quand même beaucoup d'acteurs régionaux, provinciaux aussi. Fait que donc, quand ils voient ça, ils disent « OK, c'est comme, ils veulent aller plus loin ». Donc, ils viennent ici et ils disent « OK, on va être capable de plus que juste construire une usine. On va être capable de faire du maillage pour de la recherche appliquée. C'est surtout de la recherche appliquée qui est visée par cette vallée-là. Fait que si elle amène quelque chose, assurément, elle amène de la crédibilité. Et puis, quand les gens voient tout ce qu'on est en train de mettre en place, ça les met davantage en confiance. »
Donc, c'est beau la situation géographique, c'est beau avoir, le port est là, mais la grandeur aussi, on peut accueillir beaucoup d'entreprises parce que le parc est grand. Peut-être rappeler la grandeur du parc, mais aussi rappeler aussi la capacité des infrastructures à recevoir ces entreprises-là. Là. Qu'en est-il?
Oui, donc le parc, c'est l'un des plus grands parcs industriels au Canada, 7000 hectares, dont 2700 hectares en zonage industriel lourd. Donc, c'est sûr que si le parc était plein, ben on n'aurait pas de discussion parce que on aurait la capacité aurait été atteinte. Mais là, avec la capacité qu'on a encore, c'est sûr que les gens viennent ici puis voient vraiment l'ampleur des terrains. C'est donc, anecdote, mais j'ai fait une présentation, je pense que c'est l'an dernier, il y avait des directeurs généraux de municipalités. Donc, j'avais été invité, puis on présente le parc, et puis il y a un directeur qui me fait remarquer que le parc était plus grand que sa ville. Donc, la ville de Bécancour, c'est quand même grand, 440 km² de l'ordre, mais c'est quand même un parc vraiment immense en termes de surface. Fait que donc, ça, c'est sûr que quand ils viennent à Bécancour, on accueille des projets que, tu sais, souvent les projets industriels peuvent prendre 1, 2, 3 hectares de terrain, 10 hectares. Mais ce qu'on accueille à Bécancour, c'est des 50, 100 hectares. Fait que donc, ça prend quand même des bonnes usines.
Donc, les infrastructures sont là, sont prêtes à accueillir toutes ces entreprises-là. On doit constamment ajuster les choses pour que tout le monde soit bien desservi.
Oui, les infrastructures, il y en avait une partie. Puis si je reviens juste au terrain, là, la surface, c'est comprendre que les terrains sont quand même importants. Tu sais, quand on parle de centaines d'hectares, c'est quand même des terrains immenses. Et puis, pour l'instant, on souhaite accueillir des projets qui ont besoin de cette grandeur de terrain-là. Parce qu'à partir du moment qu'un 100 hectares, on le subdivise. Bon, c'est comme subdiviser les terrains, c'est comme faire un choix de clientèle, ni plus ni moins. Donc, c'est sûr qu'on souhaite maintenir des projets quand même, avoir des projets d'envergure. Fait que donc, qui dit projet d'envergure, dit grand terrain. Fait que donc, c'est sûr que le fait d'avoir ces terrains-là, c'est important. Puis pour ça, les infrastructures, on en a déjà de construits. Et puis, assurément, c'est important pour eux, là.
On parle aussi dans les atouts de disponibilité de minéraux critiques aussi par rapport au parc.
Oui, parce que dans toute la dynamique, on parlait de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir des minéraux critiques, pratiquement tous les minéraux critiques essentiels à ce projet-là dans le nord du Québec, c'est sûr que ça motive les gens. Donc, assurément, les investisseurs qui viennent ici, les entreprises ne voudront pas reposer que sur une source. Donc, exemple, s'ils ont besoin de nickel, ils ne voudront pas être dépendants d'une seule source, mais ils savent qu'ils peuvent en avoir au Québec, au Canada. Fait que donc, c'est sûr que ça joue. Ça joue, et puis le fait d'avoir tous les minéraux critiques, le seul qu'il n'y a pas au Québec, c'est le manganèse, mais on le retrouve chez nos voisins au Nouveau-Brunswick.
Énergie verte aussi, ça fait partie des atouts, des avantages.
Oui, puis c'est quand même unique. Hein? Tu sais, je ne sais pas à quel endroit sur la planète on retrouve une situation similaire à celle du Québec, c'est-à-dire que chez nous, c'est pratiquement toute de l'énergie renouvelable. Donc, on pense à l'hydraulique, évidemment, l'éolien beaucoup et peut-être éventuellement le solaire. Donc, c'est sûr que les gens qui viennent ici, c'est vraiment important dans leurs critères. T'sais. Donc, vraiment, les gens qui viennent à Bécancour veulent produire les batteries vertes les plus vertes possibles.
Donc, quand on regarde ça rapidement comme ça, beaucoup d'atouts qui s'accumulent. Bon, situation géographique, minéraux critiques, vallée de la transition énergétique, énergie verte, etc. Donc, vraiment, là, c'est, ça explique la popularité du parc industriel dans le monde, dans le fond.
Oui, effectivement.
Donc, ça va être à développer après la pause parce que on s'en va en pause et on vous invite... Donc, chers auditeurs, auditrices, à nous écrire, à poser vos questions à l'adresse via.fm sur le site donc, de la station, onglet Le Parc en 30 minutes et de cliquer sur poser vos questions ou vous pouvez le faire aussi par texto au 819-519-9050. Nous attendons vos questions. À tantôt.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
On est de retour avec Donald Olivier de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. On parlait des atouts du parc, ce qui explique que tant d'entreprises veulent venir s'installer et viennent s'installer à Bécancour de partout dans le monde. On parlait des infrastructures tantôt avant la pause. Donald, je ne sais pas si vous voulez peut-être élaborer sur justement la qualité, la disponibilité des infrastructures dans le parc.
Oui, c'est le chat dans la gorge qui m'a amené à conclure un peu vite tout à l'heure. Faire sa part, c'est que c'était... Le fait que les entreprises sont venues rapidement à Bécancour, c'est parce qu'on était prêts. Donc, je nomme les réseaux. Évidemment, on a l'eau potable, on a le réseau d'égouts sanitaires, mais on a renforcé le réseau de gaz, réseau électrique. Mais ce qui a joué beaucoup en notre faveur, c'est qu'on a le réseau d'eau industrielle. Donc, les usines qui arrivent ont besoin d'eau, pas d'eau potable, mais d'eau pour leurs procédés industriels. Et ça, c'était déjà en place. Donc, pour ceux qui se souviennent de Norsk Hydro, Norsk Hydro a fermé, a été démantelé en 2006. Donc, eux avaient besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Cette eau-là, aujourd'hui, elle est disponible. Fait que la filière batterie qui est arrivée, elle avait besoin de cette eau-là. Donc, si on n'avait pas eu cette prise d'eau-là, on n'aurait pas pu accueillir ces entreprises-là aussi rapidement qu'on le fait. Fait qu'assurément, quand les joueurs viennent à Bécancour, ils voient les infrastructures, puis c'est pas un projet. Donc, c'est pas de dire « on va construire les infrastructures ». C'est que là, on est en train de finaliser. On a encore pour un an, mais on avait beaucoup d'infrastructures de disponibles. Et puis là, on est en train de compléter, de desservir les terrains au sud.
Avant d'y aller avec les questions du public, peut-être un autre atout qu'on n'a pas touché avant la pause, c'est par rapport aux ententes commerciales.
Oui, c'est un atout qui n'est pas évidemment spécifique à Bécancour. C'est pour l'ensemble des entreprises, mais au Canada, c'est que quand ils viennent à Bécancour ou ailleurs au Canada, ils doivent créer une entreprise canadienne. Donc, comme exemple, Ultium Cam, c'est Ultium Cam Canada. Et Copro, ils ont créé Copro Canada. Et puis, en ayant une entreprise canadienne, ce que ça donne comme avantage, c'est qu'ils bénéficient d'ententes commerciales avec les autres pays du G7. Et le Canada est le seul pays à avoir des ententes commerciales avec l'ensemble des autres pays du G7. Fait que donc, ce que ça fait, ça ouvre un bassin de potentiel d'à peu près 1,5 milliard de consommateurs. Donc, c'est un atout pas Bécancour, mais assurément, ça vient avec quand ils s'installent ici.
On va y aller avec les questions du public, puis d'ailleurs, c'est une question qui a rapport à ce qu'on s'est parlé tantôt sur la grandeur du parc, sur le fait qu'on accueille de grandes entreprises, puis il y a une auditrice qui voulait poser comme question, bon, oui, c'est beau d'accueillir des grandes entreprises, mais est-ce qu'il y a de la place aussi pour accueillir des petites entreprises dans le parc industriel de Bécancour?
Assurément, la première réponse là-dessus, c'est que c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement faire compétition avec les autres parcs industriels qui pourraient accueillir ce genre d'entreprise-là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que si on fait quand même attention, mais c'est quand même important de dire qu'on a acheté le parc industriel La Prade l'an passé. Donc, ce parc-là industriel, c'était un parc qui était appartenant au fédéral, qui était vendu à des privés, qu'on a finalement racheté. Mais l'idée de ce parc-là, c'est justement d'avoir des terrains de plus petit gabarit. T'sais, parce que dans l'ancien parc, dans le parc version actuelle, donc, des terrains de 2-3 hectares, ça n'existe pratiquement pas parce que c'est trop petit. Mais du côté de La Prade, ce sera ça les projets qu'on accueillera. Donc, des projets de quelques hectares, donc beaucoup plus petits et qui ont besoin de moins de services. Parce que donc, si on prend des terrains qui ont plein de services que les gens n'ont pas besoin, mais un jour, on manquera de terrain et on n'aura pas les services disponibles. À La Prade, les entreprises qui vont aller là vont avoir des terrains de plus petite envergure, auront l'aqueduc, l'égout, la route, mais pas l'ensemble des services qu'on a du côté plus industriel lourd.
Je suis convaincu que plusieurs viennent d'apprendre ça aujourd'hui, là, pratiquement, que le parc industriel s'est porté à carrière du site La Prade, parce que ça a été fait quand même l'an passé, ça a été dit.
Oui, juillet l'an passé, fait donc c'est un mandat que moi j'avais de tenter d'aller le chercher, parce que C'est un site qui est déjà zoné industriel lourd. Mm-hmm. Donc, on parle souvent de préserver les zones agricoles avant de commencer à penser à faire quelque chose dans ces secteurs-là. Assurément, l'obligation qu'on a, c'est de maximiser l'industrie lourde qu'on a déjà, et c'est industrie lourde depuis les années 70. Donc, c'est important d'aller chercher ce panier d'outils-là aussi. Là.
Donc, pour répondre à cette auditrice-là, donc, il y a de la place pour accueillir de plus petites entreprises grâce, entre autres, à l'acquisition du site Laprade.
Oui, et puis on est en train de développer. Les études environnementales ont eu lieu cet été parce qu'il faut voir qu'on a, là aussi, on aura des routes à construire, des conduites à enfouir. Ça fait que donc, on n'est pas capable d'accueillir toutes les entreprises plein de projets en même temps à Laprade, mais assurément, on veut se lancer. Ça sera un projet de peut-être entre 20 et 30 millions de construction d'infrastructures qu'on va faire dans les prochaines années pour être sûr de maximiser l'ensemble des terrains potentiels à cet endroit-là.
Fort intéressant. Une autre question qu'on avait reçue d'un auditeur, c'est M. Yvon Tremblay de Bécancour qui se demande pourquoi il y a un aussi gros pont, en tout cas à sa vue, à sa perception, à la traverse de chemin de fer sur l'autoroute 30 près de Bécancour.
Oui, donc il y a beaucoup d'actions hein, dans ce secteur-là. Là. Le ministère des Transports retravaille l'intersection. Et puis aussi, il y a le ponceau. Il y a un ponceau à refaire. Donc, dans ce coin-là, le ponceau n'a pas une capacité suffisante au niveau hydraulique et puis était vieillissant. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment de le remplacer.
Okay.
Comme on doit remplacer ce ponceau-là, le ministère des Transports n'a pas eu le choix de faire une traverse alternative. Ce qu'on voit au nord du ponceau actuel, ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de contourner le trafic pour faire ce changement de ponceau-là. Donc, c'est un projet quand même costaud. Là. Un ponceau qui traverse l'autoroute, ce n'est pas juste un tuyau. Là. C'est une structure de béton quand même assez imposante. C'est pour ça qu'ils ont fait ce pont-là temporaire. Puis, il faut voir que le trafic sur l'autoroute 30, il y en a de toutes sortes. Donc, le ministère des Transports doit s'assurer que le pont, même s'il est temporaire, a la capacité suffisante pour accueillir les transports lourds.
En parlant de transport, une autre question qu'on avait reçue, est-ce que le réseau routier du parc est suffisamment solide pour recevoir tout ce transport qui se développe là actuellement? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire ou
en termes de
capacité de route ou de lien routier à l'intérieur du parc? Là, tout est correct?
Ce qu'on a dû faire, c'est qu'il y a beaucoup, pratiquement, en tout cas, il y en a trois, quatre même, entreprises sur les 5 projets actuels qui ont besoin d'un lien de transport entre le port,
okay.
Donc des éléments qui sortent du bateau,
okay.
Et puis qui doivent se rendre à leur usine. Et puis il a fallu faire ce qu'on appelle un tracé, excusez l'anglicisme, oversize, overweight, surdimensionné, surpoids, et puis pour être capable de partir du port et de se rendre à leur usine. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment de s'assurer que les rayons de courbure soient plus importants, parce que c'est très long. Hein, donc, je ne me souviens pas de la longueur, mais c'est vraiment plus long qu'un convoi normal. Et puis, le poids aussi est plus important. C'est ce qui nous a amené à créer ce tracé-là qui va traverser l'autoroute 30 aussi.
Ça, c'est fait, ça. Ou c'est en cours
il est accessible depuis peu. Là. Ceux qui ont vu une barrière qui traverse l'autoroute vis-à-vis Jean Demers puis qui se demandaient, bon, est-ce que ce sera une intersection officielle un jour? La réponse, c'est non. Ça sera une façon de passer les transports de forte dimension et en surpoids pour traverser l'autoroute. Parce que vis-à-vis les autres lumières, il y a des interférences et puis ça ne passe pas.
Peut-être une autre question rapidement comme ça. Est-ce que les entreprises existantes vont bénéficier de l'arrivée de la filière batterie? Bon, la filière batterie arrive, mais est-ce que les entreprises existantes vont bénéficier de cette arrivée-là?
Bien, si on dit les premières vraies réactions, il y a certaines entreprises, quand tout ça s'est annoncé, qui voyaient, je ne sais pas comment ils le voient aujourd'hui, mais ils voyaient un peu ça comme une menace en pensant à la main-d'œuvre.
Mm-hmm.
La pression sur la main-d'œuvre s'atténue un peu. Mais assurément, il y a des entreprises du parc qui pourraient s'insérer dans la chaîne d'approvisionnement de la filière batterie. Donc, les produits, ce que Olin produit, ce que Arkema produit, peut s'insérer dans la filière, dans la chaîne d'approvisionnement de la filière batterie. Et Air Liquide l'a déjà fait. Air Liquide avait déjà une usine en production dans le parc et a fait le choix de s'inscrire dans la filière batterie en construisant une autre usine au carrefour du développement actuel.
Ça, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, on va vraiment prendre chacune de ces... je pense que ça fait partie d'un des 5 joueurs de la filière batterie Air Liquide.
Oui, Air Liquide, qui est un fournisseur, on s'entend, mais vraiment qui va donner les services à toutes les entreprises qui s'installent pour la filière batterie.
C'est important, peut-être avant de terminer, de rappeler que cette fameuse filière batterie-là s'inscrit dans une stratégie québécoise aussi. Là,
Oui, assurément. Et je pense que c'est ce qui fait le succès. Donc, le parc, par le passé, a été un peu pris à développer un peu seul ses stratégies, alors que là, il y a une volonté assumée. Et il y a le ministère de l'Économie avec nous, Investissement Québec avec nous. Et je dis souvent que moi, je ne prends pas l'avion. Là. C'est Investissement Québec qui prend l'avion pour aller faire du démarchage à l'international. C'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir ces équipes-là à notre disposition pour tenter d'aller chercher les meilleurs projets possibles.
Donc, qui dit stratégie québécoise, donc, dit, bon, quand même, on l'a rappelé la semaine passée, ce lien, une société d'État quand même qui est reliée quand même avec les orientations gouvernementales. Là, ça, c'est, puis ça a évidemment un impact sur le développement du parc, inévitablement.
Oui, 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 c'est sûr que sans ce train-là, ce train-là, vraiment la volonté forte, on n'aurait pas le succès qu'on a là. Puis je dis souvent que des projets, faire un projet, c'est une course à obstacles. Et on a besoin du ministère de l'Économie, d'Investissement Québec fréquemment pour réussir à naviguer à travers tous ces obstacles-là, parce qu'ils sont de toutes sortes. Parfois, ils sont techniques puis ils sont propres à chacune des organisations, mais nous aussi, on a nos propres difficultés reliées à pousser des projets puis à développer des infrastructures comme on le fait. Là.
Puis toi, tu diriges une équipe, mais aussi, évidemment, tu as un conseil d'administration avec qui tu es en lien étroit. Là.
Oui, effectivement, des rencontres régulières pour s'assurer de prendre les décisions qui s'imposent pour assurer le futur de la société du parc.
Le président du conseil d'administration qui est…
Oui, Jean-Paul Liquin. Jean-Paul Liquin qui est là, il est impliqué à la SPIB depuis quand même un bon bout de temps, donc comme membre du conseil d'administration plusieurs années. Et puis, présentement, c'est lui qui dirige la Société du Parc, qui dirige le conseil d'administration.
Eh bien, encore une fois, merci beaucoup, Donald, de t'être rendu disponible pour nous, pour le public. Puis aussi, on veut rappeler aux gens de nous écrire, de poser des questions au site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions ». Et aussi, on vous rappelle que la semaine prochaine, on va consacrer l'émission sur les 5 grands projets qui se déroulent actuellement au parc industriel de Bécancour. Alors, c'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, donc à lundi prochain. Rendez-vous lundi midi, Le Parc en 30 minutes.